السلام عليكم قطر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
راديو فوت انترناسيونال
من قطر.
أني جاسني.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International dans cette deuxième édition avec un match qui vient de se terminer et la qualification d'une troisième équipe en huitième de finale. Il s'agit du Portugal, vainqueur de l'Uruguay sur le score de 2-0. On va revenir sur ce match. Le Brésil, deuxième, c'était alors la deuxième équipe qualifiée après la France. Mais là, Célesson a eu du mal à vaincre la Suisse, libérée par un but de Casemiro. Quel Brésilien verra-t-on contre les Lions camerounais qui auront besoin, eux, d'une victoire après leur nul contre la Serbie ? Demain, d'autres Lions seront sur le terrain. Le Sénégal jouera sa qualification, lui, contre l'Équateur. Seule la victoire est belle, estime Aliou Cissé. Ces hommes ne peuvent que gagner ou rentrer au pays. Les sélections africaines semblent pourtant être sur une dynamique plus favorable après ce deuxième tour. Et puis un match à la fois sportif et géopolitique. Demain, il s'agira de Iran-États-Unis. Les Iraniens pourraient atteindre les huitièmes de finale. Un lion dans ce studio ce soir. Bonsoir, Yoro Mangara.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Bonsoir du côté de Dakar. On retient notre souffle.
Effectivement, on va en parler. Bonsoir Jean-Philippe Bouchard. Alors, vous pouvez le redire parce que...
Vous n'avez pas eu trop froid au Qatar, je m'inquiétais.
Non, pas vraiment. Mais pas trop chaud non plus, bizarrement. Pas froid dans les stades parce qu'on n'était pas toujours derrière la bouche d'aération, enfin d'air conditionné. Et puis Bruno Constant est là aussi. Bonsoir Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être au rendez-vous donc tardif de Radio Foot International. David Finzel et Laurent Salerno sont là pour cette deuxième édition, eux aussi. Radio Foot, c'est parti.
Vamos lá no deserto do Qatar. Bruno Fernandes tenta matar a sede do golo. Vai lá, Bruno! Vai lá, Bruno! Isto é Copa do Mundo! Isto é Portugal! Isto é Portugal! Um, dois, três, passa atrás! Bruno, 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 Bruno! Ele vai arrancar, Barbita apitou, explosão, a panela de pressão vai arrebentar. Vai lá Bruno, vamos lá Bruno, assim vou sofrendo muito. Lá está o Bruno a arrancar, bateu.
Le Portugal est donc en huitième de finale après cette deuxième victoire et les 6 points marqués. Les Portugais, des habitués des sommets du football mondial, surtout quand on a Cristiano Ronaldo dans son équipe, mais il n'est plus seul désormais. Il est très bien accompagné et c'est peut-être Bruno Constant qui peut expliquer la qualification face à l'Uruguay qui, on va y revenir, n'a pas démérité, mais en tout cas qui n'a pas marqué et c'est là que les Portugais en ont profité.
Oui, c'est un match qui aurait pu basculer presque d'un côté comme de l'autre. C'était assez équilibré dans l'ensemble. Et l'Uruguay s'est créé pas mal d'occasions, touche le poteau. Et notamment la sortie de Cavani, Darwin Núñez qui finalement fait du bien. Suarez rentre et puis surtout Maximiliano Gomez qui a une occasion, qui a cette occasion, je crois que c'est lui qui tire sur le poteau.
Oui,
Bettencourt a eu aussi une énorme occasion en première période. Enfin, l'Uruguay était très séduisant, mais pas assez réaliste. Et le Portugal, on sait qu'ils ont un réservoir offensif assez énorme. Et surtout, moi, ce qui m'encourage, c'est que Bruno Fernandes, qui était très discret sous le maillot du Portugal depuis quelques mois ou quelques années, eh ben, il est en train de hisser son niveau, d'élever son niveau. Il aurait pu finir le match avec un quadruplé. Il touche 2 fois les montants. C'est lui qui se voit octroyer le but, puisque Cristiano Ronaldo ne touche pas le ballon. Et puis, il inscrit le deuxième but sur
penalty. Il y en a qui disent qu'il l'a effleuré, mais peu importe. Oui.
Ouais.
En tout cas, c'est un but de réconciliation, en plus, si on se souvient des états d'âme qu'on suivait à la loupe en ce début de compétition, où on avait parlé dans les vestiaires d'un salut glacial entre les deux hommes.
Ouais, on avait mal interprété une vidéo, on n'avait pas de son consécutivement à ce qui s'était passé à United. Mais finalement, ça n'avait rien à voir avec...
Sans doute. Ouais. Yoro Mangara, ce Portugal, finalement, c'est un peu la logique qui l'emporte. On les a vus batailler contre le Ghana, mais batailler justement dans le bon sens, puisqu'ils s'en étaient sortis en gagnant de 3-2. Et là, et puis marque des buts maintenant ce Portugal, parce qu'on se souvient d'un Portugal de 2016. C'est toujours le même sélectionneur, hein, Fernando Santos, mais là on a une équipe, semble-t-il, bien plus dynamique.
Bien plus dynamique, avec beaucoup plus d'individualité aussi. Et je crois que la dernière fois qu'ils ont gagné deux matchs d'affilée en Coupe du Monde, c'est 2006. Ça date quand même de très longtemps. Mmh. Et en 2006, ils avaient fait demi-finale. Est-ce l'année...
Contre la France.
Exactement. Est-ce en 2006, la France... Oui.
Sort le
exactement.
Portugal.
Exactement. De Cristiano, but de Thierry déjà. Henry, je crois. Quelque chose comme ça.
Sur une passe de Zidane.
De Zidane.
La seule passe de Zidane
de l'histoire.
Passe décisive pour Henry.
Ils ont fait demi-finale. Et donc, je crois qu'ils sont sur une bonne dynamique avec un Cristiano Ronaldo retrouvé en sélection. Parce que derrière, il y a des joueurs qui acceptent qu'il ne fasse pas d'efforts, mais qu'il fasse pour lui, pour que lui puisse terminer les actions. Et on a vu qu'il est clinique depuis le début du tournoi. On ne va pas faire la fine bouche, hein. C'est un résultat qui nous arrange, nous les Africains. Parce que...
oui, mais exactement. Oui, mais t'as raison.
Parce que oui. Le Ghana n'aura qu'à faire match nul avec les Uruguayens pour passer en huitième de finale. Ce ne sera pas un match revanche. Je ne veux pas entendre parler de ça. Il ne faut pas parler de 2010. C'est un nouveau match et il faudra que les Black Stars soient prêts.
Mmh. On sera dans un contexte complètement différent. Les Uruguayens, effectivement, ont un peu raté leur chance déjà dès le premier match contre la Corée du Sud, sans doute, Jean-Philippe.
Si j'ose dire, j'ai un peu tendance à dire que c'est bien fait pour eux, parce que à vouloir être
minimaliste.
Oui, voilà, à tout replier en défense, à prendre aucun risque, à compter uniquement.
Mais là, vous vous attaquez à l'école football uruguay.
Ouais,
hein.
Non, mais c'est sûr que ça fait des années que ça dure.
Et, oui, voilà.
Et en plus, le pire, c'est que c'est pas la philosophie de cette équipe au départ.
Bah non.
C'est un constat pragmatique de dire, ça marche pas quand on fait du jeu, donc on va fermer dehors. Mais il faut peut-être aussi pas aller trop loin. Quoi,
surtout parce qu'ils ont des bons attaquants. Enfin, c'est incroyable. Devant,
sans
ils
remettre,
ont du
sans
monde.
Remettre qu'à ses attaquants, voilà, c'est un peu le risque. Et franchement, là, ils perdent ce match. Ils n'ont pas de réussite, mais ils ont commencé vraiment à se mettre à l'exception de la percée de Bettencourt. Mais sinon, ils n'ont pratiquement rien fait avant l'heure de jeu.
Ouais.
Et une fois qu'ils sont contraints et forcés, là, ils commencent à sortir l'artillerie. Mais voilà, peut-être que ça va être trop tard. Effectivement, le Ghana va peut-être pouvoir en profiter. Et finalement, ça serait un peu légitime parce qu'au moins, il y a une équipe qui joue. Et ce n'est pas qu'ils n'en ont pas les moyens, en plus, l'Uruguay. Quoi. Donc voilà, le côté jusqu'au boutiste du bus devant le but, pour le
ça
coup,
a des failles.
On peut se faire prendre à son propre jeu. Quoi. Mm-hmm.
Et Cavani, Suarez, Darwin Núñez ont été plutôt impuissants. Oui, Bruno Constant.
Disons que moi, je me pose des questions qu'on fasse autant confiance à des trentenaires
lointains. Hein.
Comme Suarez.
C'est un peu la mode. Hein,
Suarez avait été catastrophique
Bruno.
Sur le premier match. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai,
je
quand on regarde cette Coupe du Monde.
Vraiment, dans les équipes, il y a des anciens comme ça qui ont été des grands noms et qui ont eu des importances, mais qui finalement, on les met titulaires d'entrée.
Ouais.
Là, Cristiano Ronaldo était sorti. C'est pas lui qui inscrit le pénalty, hein, c'est Bruno Fernandes. Mais quand
si
même.
On regarde les avancées de beaucoup de nations dans la compétition, effectivement, il y a énormément de trentenaires et trentenaires plus. Il y a Giroud.
Ça peut se comprendre dans le sens où il y a tellement incertitude sur cette compétition qu'on puisse vouloir vouloir se replier vers des valeurs sûres, mais on sait aussi ce qu'on n'a pas, quoi.
Ça va même au-delà, c'est qu'on peut se poser la question sur la nouvelle génération d'avancantes qui n'arrive pas peut-être à faire sa place, et ou peut-être une nouvelle génération d'attaquants qui étendent leur carrière au-delà de 35 ans, comme Giroud, qui en est le plus bel exemple. Donc c'est aussi l'évolution du foot.
En tout cas, dans ce groupe, le Ghana donc a remporté une belle victoire en se démenant et en se battant beaucoup, mais c'était contre la Corée du Sud, et tout peut donc arriver derrière le Portugal, et ça sera à la prochaine journée. On continue. Aujourd'hui, il y avait le Brésil qui jouait.
Guimarães! Parabéns para Marquinhos. Marquinhos outra vez levando o Brasil no campo de ataque, querendo o seu gol. É pela esquerda, a bola com o Vini Júnior. Vinícius recebeu, encara o seu marcador. Ajeitou, recebeu de volta. Casemiro!
Do Brasil, les Brésiliens au rendez-vous, ils sont l'une des équipes favorites de la compétition. Et là, Célesson a finalement gagné son match face à la Suisse, un peu infranchissable, en tout cas jusqu'à un certain moment, parfois même dangereuse, jusqu'à ce donc qu'un défenseur inscrive le but des Brésiliens. Casemiro a sauvé donc la victoire et la qualification dès le deuxième match, juste derrière les Bleus. Mais ce fut un peu difficile sans Neymar, même si le capitaine Thiago Silva préfère valoriser le collectif.
Nous sommes contents pour la performance d'aujourd'hui, même si on a trouvé beaucoup de difficultés, surtout la première période. C'était un match très serré. On a un collectif très très fort, mais bien sûr que Neymar il va manquer pour toutes les équipes qu'il va jouer. Pour la sélection, il a manqué pour le Barça, il manque aussi pour le PSG. C'est un joueur indispensable pour toutes les équipes. Et bien sûr qu'on a senti cette manquance aujourd'hui, mais l'équipe il est prêt pour avoir des résultats et pour donner la possibilité à Neymar de venir plus avant.
Alors Neymar, évidemment, il leur manque, mais c'était compliqué. Mais ils ont trouvé la solution quand même, ces Brésiliens, Euro.
Ils ont usé cette équipe suisse à force de courir derrière le ballon, même si c'est une équipe compacte qui était très bien organisée.
Difficile on a à bouger, oui.
Ouais, on a vu qu'en première mi-temps, à part cette frappe de Vinicius, il n'y a pas eu presque d'occasion côté brésilien. Après, c'est une équipe impressionnante.
Le but de Vinicius, c'est en millimètre
ouais.
qu'il est refusé. Hein.
Donc, c'est une équipe franchement solide. Ça me rappelle le Brésil de 1994. Ce n'est pas aussi flamboyant que les précédentes, mais c'est solide, c'est rigoureux, ça coulisse bien. Il faudra compter sur cette sélection pour le futur, même sans Neymar, parce qu'aujourd'hui, Lucas Paqueta a été un peu en dedans, mais c'est une équipe vraiment solide.
Mm. Bruno Constant, vous aussi, ça vous rappelle 1994 ?
Je le trouve un peu sévère sur le Brésil.
Ouais, moi aussi.
Le Brésil de 1994, il était vraiment pas beau. Hein. Il était presque négatif dans son football.
Bah oui, d'ailleurs, il le porte un peu comme une croix. Certains, on se souvient, Dunga, quand il était sélectionneur, il n'aimait pas trop les critiques, alors que celle de 2002 était certes plus flamboyante, mais celle de 1994, elle avait quand même Romario et Bebeto.
Je suis d'accord, parce que c'est un Brésil à deux visages. Mm. Sur les deux matchs, une première période, à chaque fois, ils sont très pragmatiques, très solides, ils prennent pas de risques. Et puis la deuxième période, à force d'envoyer des vagues sur le but adverse, ça finit par passer. Mais on a senti quand même que Neymar leur manquait. Et c'est quand même la petite étincelle au milieu de terrain qui est capable, sur deux, trois gestes, de faire la différence. Vinicius était un tout petit peu moins bien que sur le premier match. Mais après, ils ont un tel réservoir. C'est pareil. Et j'ai l'impression que les nations qui ont un gros réservoir sur le banc, un gros réservoir offensif notamment, arrivent toujours à trouver des solutions, comme l'équipe de France, comme le Portugal. Donc, il n'y a pas de mystère. C'est les trois équipes qui ont gagné leurs deux matchs et qui sont déjà qualifiées.
Ouais, l'équipe de France, c'est pas un gros réservoir. C'est quand même...
Offensivement, ils ont...
Ah, offensivement. Ouais, offensivement, je parle au milieu et derrière. On est quand même...
Pour le Portugal et le Brésil, je parle offensivement. Il y a du banc de touche, peuvent sortir des talents comme Anthony, comme Rodrigo.
Comme Léon.
Le Portugal avec Léo qui est quand même sur le banc au coup d'envoi et sur les deux premiers matchs. C'est une force de frappe énorme. Et avec ces cinq changements et avec la fatigue qu'il y a dans cette compétition, ça peut faire une grosse, grosse différence, je trouve.
De toute façon, Jean-Philippe, c'est vrai qu'on compte toujours sur les Brésiliens. Et, ils ont toujours été là depuis 1930 et pratiquement toujours en huitième de finale.
Oui, et puis moi, je trouve la comparaison avec 94, elle est vraiment sévère. Non, sérieusement, 94, on met Rai qui est capitaine sur le banc. Peut-être que Thiago Silva devra aller sur le banc.
Alors que tu as des talents. Tu as des talents offensifs énormes en 94. Ça Romario Bebeto, c'est quand même...
Le 94, c'est vraiment un Brésil contre nature. Celui-là, je dirais qu'il est assuré, il est plus sûr, mais il n'est pas sans talent du tout, au contraire.
Alors, dans ce groupe, le Cameroun a obtenu le match nul 3-3 face à la Serbie. Alors, un terme d'un match fou, hein, on en a parlé et avec Rémi Ngono dans la première édition de Radio Foot International. Un match incroyable. Et les supporters qui étaient au stade, le stade Al-Janoub, d'ailleurs, où ils avaient joué quelques jours avant, stade Al-Janoub de Doha, eh bien, ils étaient plutôt soulagés. Écoutez-les au micro de Frédéric Suto.
C'est un match où on a mis les organes, s'il vous plaît. Chez nous, au Cameroun, quand on dit qu'on a mis les organes, ça veut dire qu'on a mis le cœur. Parce que le cœur, c'est un organe.
Il y avait la désespoir, il y avait déjà le désespoir. C'est comme une victoire pour nous. Revenir au score 3-3, c'est un sentiment vraiment d'émotion.
Quand on a marqué un but, on se disait, ok, on va gagner et tout. Mais quand ils ont fait 2-3, nos cœurs ont commencé à battre fort comme ça. Mais finalement, on a pu égaliser. Je tiens vraiment à m'excuser auprès du Seigneur parce qu'à un moment, j'ai voulu douter du Cameroun.
Je pense que si on en a été là, on n'encaissait pas les 3 buts là. Je pense qu'on en aurait pu. On n'encaissait pas les 3 buts.
On a souri un peu, hein, mais pas trop, parce qu'on devait gagner. On doit battre le Brésil pour aller to the next round. Je suis des États-Unis. So,
on a vu un match assez incroyable. Trois buts partout.
Il y a 5 minutes avant le mi-temps qu'on est. On était en train de dormir.
Et on disait qu'Abou n'est pas au niveau du mondial. Abou pourtant est au niveau du mondial.
On a amené Aboubacar.
Il a réveillé son équipe,
voilà,
Vincent Aboubacar.
Voilà. Le vieux lion a réveillé son équipe. That's it. Brilliant.
Donc on a les meilleurs, donc on va gagner. On a Castelletto. Non, je vais pas citer.
Aboubacar, Vincent, quelle entrée.
Non, mais il a changé le match carrément. Il a changé le match. Hein.
Il a fait la remontada.
Oh, la Lyon Montada, s'il te plaît.
La Lyon Montada.
La Lyon Montada, oui.
Ça vous plaît ce terme, la Lyon Montada?
Ça, c'est le Cameroun, il a changé rien. C'est un pays de guerriers. Mener 3-1, revenir comme ça dans ce match avec Vincent Aboubacar.
Incroyable.
Ce garçon.
Enfin associé à Choupo-Moting, on peut dire. Hein.
Oui, ce garçon, il est incroyable. En 2017. Figurez-vous, lors de la finale de la Coupe d'Afrique, il était sur le banc. Il entre, c'était un but partout. Il réussit ce geste technique, contrôle de la poitrine et demi-volé en pleine lucarne face à l'Égypte. Il remporte la CAN. C'est toujours comme ça. Des fois, il est titulaire, des fois remplaçant. Aujourd'hui, il est remplaçant. Il l'était lors du premier match. Et son analyse, après le coup de sifflet final, il dit « Quand j'étais sur le banc, j'ai vu que cette équipe... manquait de profondeur. Et donc, je me suis dit, si je prends cet espace, je pourrais faire mal à cette défense. Et c'est ce qu'il a fait.
Incroyable.
Incroyable.
Et puis alors, son but, il a lobé le gardien. Mais...
Le retour de la louche. C'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu.
Et puis,
une
pas une louche de 3-4 mètres, hein, une louche de 15 mètres. Hein. Et j'ai même cru qu'elle allait rebondir devant le but et passer au-dessus de la transversale.
C'est peu commun, c'est vrai. On voit souvent des balles piquées dans ces situations-là. Mais la vraie louche comme ça, qui passe 3 mètres au-dessus du gardien,
c'est des buts dignes de Ronaldinho.
Il a d'ailleurs dit j'espère que ça sera le plus beau but de la Coupe du Monde, évidemment, Vincent Aboubacar. Mais c'était assez épatant. Vous avez tous eu vent, évidemment, de l'affaire Onana. Est-ce qu'elle est en train de se tasser? Alors, ce matin, on avait découvert sur la feuille de match que le gardien titulaire André Onana était remplacé par un certain Davis et Passy, jeune, 6 sélections. Et puis, le gardien était sanctionné, apprenait-on, et même prêt à partir du Qatar. Rémi Ngono, tout à l'heure, hein, si vous voulez réécouter l'émission, il nous a expliqué un peu la mésentente tactique qu'il y aurait eu avec le sélectionneur. Avec Rigobert Song. Mais il semble, alors qu'il était sur le point de partir, et puis un tweet de notre confrère Marc Choimeau, qui est sur le terrain là-bas, confrère camerounais, nous dit ce soir, André Onana a déjà reçu son billet pour partir, mais un coup de fil en haut lieu, alors on peut imaginer qui on veut, depuis le Cameroun est intervenu, le gardien reste dans l'équipe et a de grandes chances de rejouer face au Brésil vendredi. Donc, voilà.
Ça, c'est quand même gênant, hein, parce que s'il y a un sélectionneur qui prend cette décision d'écarter, et j'imagine que Rigobert Song, il ne la prend pas sans l'aval de Samuel Eto'o.
Mais il lui a peut-être pas dit de faire ses valises et de repartir. D'ailleurs, dans la conférence de presse, il avait dit s'il se plie aux règles, on verra. Donc, il avait un peu aussi entrouvert la porte. Ouais. Bon, après des débuts difficiles, en tout cas, on a donc cette équipe qui l'a emporté. On a le Ghana qui a gagné aussi. Après le Maroc, après le Sénégal, est-ce que vous diriez que finalement les équipes africaines marquent aussi des buts et qu'elles sont sur une bonne dynamique?
Je pense que si on veut généraliser un peu, elles ont pris la mesure de l'événement. C'est-à-dire que les premiers matchs pour les équipes africaines qui ne sont pas forcément les plus habituées à cette Coupe du Monde et en particulier à l'année, au moment de l'année où ça se déroule, ouais. Elles ont été un peu assommées. On avait l'impression qu'elles évoluaient pas de façon générale, à leur niveau réel. Sur les premiers matchs, on était déçus quand même globalement. Et là, sur les deuxièmes, et particulièrement le Cameroun, là, qui, dans les circonstances qui sont là actuelles, avec l'affaire Onana, avec, où ils ouvrent le score, ils se font reprendre à la mi-temps, juste dans le temps additionnel. C'est le pire scénario quand
exactement.
Même. Il y a de quoi baisser les bras. Franchement, c'est...
Et on les avait vus baisser les bras quand la Suisse avait marqué.
Voilà. Donc là, le fait qu'ils se reprennent, le fait qu'ils ils vont pas chercher la victoire, mais presque ils auraient pu l'obtenir. Et il y a un côté, voilà, on est dans la compétition, on est dans l'événement. Alors après, le troisième match va décider de beaucoup de choses. Il n'y aura pas que des élus, il y aura aussi beaucoup de déçus.
Malheureusement.
Mais voilà, on peut dire que globalement, les équipes africaines sont rentrées dans la compétition.
Mmh. Et plutôt bien.
Moi, j'irais même plus loin. Je trouve qu'elles sont en train de réussir leur Coupe du Monde. Parce qu'avant la troisième journée, il y a deux équipes qui sont deuxièmes de leur groupe, le Ghana et le Maroc.
Et le Maroc.
Qui sont en bonne position pour se qualifier.
Ouais, mais rien n'est fait quand même, alors attention.
Non, c'est sûr. On ne dit pas qu'ils vont se qualifier, juste qu'ils sont en très bonne posture. Le Sénégal peut encore se qualifier, ce sera une finale face à l'Équateur lors de la troisième match de poule. On ne pensait pas qu'il y aurait une telle réussite sur les équipes africaines avant la Coupe du Monde. On était plutôt pessimistes.
Surtout en 2018, zéro équipe.
Le Cameroun, je crois que sa première victoire en Coupe du Monde depuis 2002.
Deux. Exactement.
Donc, il se passe quelque chose. Et le Cameroun, c'est pareil, on ne les attendait pas.
Et là, ils n'ont pas gagné, le Cameroun.
Ils ont montré de la vie, ils ont montré des ressources mentales sur ce match.
Oui,
on pensait qu'ils allaient passer à la trappe. Début de deuxième période, ils sont menés 3-1. Ouais. On pensait qu'ils allaient emporter.
Et le Ghana, pareil. Ils mènent 2-0, ils se font remonter 2-2. Ouais. Et finalement, ils vont l'arracher, cette victoire aussi.
Ils vont l'arracher. Et puis, face au Portugal, ils étaient menés. Ils reviennent, ils prennent encore 2-3-1. Ouais. Ils ont cette ressource mentale pour revenir à 3-2. Ils auraient même pu égaliser si Iñaki Williams n'a pas été un petit peu en dedans sur cette dernière occasion. Je trouve que franchement, ce qu'ils montrent jusqu'à présent, après cette deuxième journée des équipes africaines, que ce soit le Maroc dans l'organisation, que ce soit le Ghana avec ce côté un peu foufou, un peu ce côté jeune, ils ont cette fougue de jeunesse. Je crois que nous sommes en train de réussir notre Coupe d'Afrique des Nations, notre Coupe du Monde. Et il faudra tout capitaliser lors du troisième match. Essayer au moins d'avoir deux équipes en huitième de finale. Pourquoi pas le Maroc, le Ghana et une troisième équipe, le Sénégal.
Ce qui a quand même frappé le plus fort, c'est le Maroc quand même.
Franchement, ce qu'ils font...
En battant la Belgique.
Jeu égal avec le finaliste de la précédente Coupe du Monde. Et battre le demi-finaliste, c'est quand même pas donné à tout le monde.
Exactement. En tout cas, pour ce qui est du Cameroun, il va se retrouver face au Brésil.
Mais il faut faire tourner.
Le Brésil, c'est la première place du groupe qui est en jeu quand même.
Ils ont deux victoires.
Ils sont déjà premiers.
Oui, ils sont quasiment assurés d'être premiers, je pense.
Oui, mais ils ne le sont pas.
Parce qu'ils
sont assurés d'être premiers.
Parce que l'autre équipe, comment ça s'appelle
dans ce groupe,
la Suisse.
Il faudrait que la Suisse écrase la Serbie.
C'est ça.
Ce qui n'est pas impossible, si. Si, bon.
On a déjà vu des 7-0 dans ce mois.
Après, il faut vraiment imaginer que le Brésil fasse une grosse rotation et que sur un malentendu, il fasse quelque chose. On ne sait jamais, pourquoi pas.
Il y a un match à jouer, ce n'est pas plié.
Oui, en tout cas, c'est ça qui est très intéressant. Allez, on continue et on va évoquer les Bleus quand même. Nos Bleus qui sont en huitième de finale.
Kylian Mbappé, il va rentrer dans la surface. Kylian Mbappé sur le côté droit, glissé à Théo Hernandez derrière pour Mbappé, le but ! Kylian Mbappé ouvre le score, la voilà la différence qu'on attendait, la voilà ! Et elle est signée, Kylian Mbappé ! Donc on va se contenter peut-être de ce résultat, attention à Kylian Mbappé, le but ! Le doublé de Kylian Mbappé ! Le doublé alors qu'on ne l'attendait plus ! 31e but en équipe de France. Et il redonne l'avantage aux Bleus. 2-1 face au Danemark.
Voilà, je voulais vous dire un grand merci à tous les supporters. Merci pour votre soutien. Merci pour l'ambiance. On sent que vous êtes derrière nous. Ça nous donne beaucoup de force. Donc on espère aller loin et vous faire plaisir. Et voilà, on se revoit très bientôt. Et encore merci.
Un petit message de Raphaël Varane qu'on a vu hein, sur ce match, joué à peu près une heure du match contre le Danemark. Et la France a donc vaincu, peut-on dire, le signe indien, ce fantôme qui l'a hanté avec ses deux défaites essuyées face au Danemark en Ligue des Nations. Voilà les Bleus tenants du titre mondial, hein, ne l'oublions pas, être les premiers qualifiés donc en huitième de finale, c'est peut-être significatif. En tout cas, une équipe et un sélectionneur qui... vous impressionne ou pas, Jean-Philippe Bouchard ?
J'ai l'impression qu'on a retrouvé le Deschamps effectivement de 2018 avec ses principes de jeu.
L'a-t-on perdu véritablement ?
Peut-être un peu pendant l'Euro, on l'a perdu. C'est sûr. Il a sans doute fait trop confiance au talent de ses joueurs offensifs. Il s'est adapté à la pénurie de joueurs défensifs, voilà, en se disant ça va passer. Il aurait pu passer, mais bon, c'est du foot, ça n'a pas marché. Mais de toute façon, c'était fragile. Et là, vu les circonstances, il a joué la sécurité, comme je dis souvent, ses ceintures et bretelles avec Deschamps. Et là, il est retourné à son 4-4-2 avec... beaucoup de travail quand même, il se voit peu hein, les joueurs en sélection, mais là on voit bien que la défense elle est huilée, quels que soient les joueurs. Quand Varane revient, c'est quand même, il n'y a pas de malentendu, c'est quand même ça qui est intéressant. Et face à une équipe qui les avait battus quand même, le Danemark, ils ont été très peu en danger finalement. Ils prennent un but, mais bon, il y a franchement...
Il y a des petits moments un peu chauds, mais c'est pas
n'importe qui le Danemark, en fait. Mm-hmm. C'était vraiment le match difficile du groupe. Mm. Et finalement, on voit qu'ils ont été peu en danger, ils ont peu de réussite, mais c'était extrêmement rassurant sur les principes de jeu, sur la sécurité que dégage cette équipe. En plus, elle a la chance d'avoir un génie devant.
Parce que je crois que Griezmann et Ousmane Dembélé depuis le début du tournoi, c'est énorme.
Oui, alors Griezmann repositionné au milieu du terrain, ça fait énormément de bien. On a un Rabiot qui a su se mettre au service de l'équipe, donc ça c'est aussi la grande bonne nouvelle de de ce début de compétition. Et si ça tient derrière, effectivement, elle peut faire quelque chose. Il y a quand même du talent. Quelques doutes sur la capacité de Loris à ne pas se trouver à un moment ou un autre dans la compétition.
Il a toujours été bon dans les grands tournois.
Contre le Danemark, il a fait un arrêt décisif. Il y a du potentiel. Quoi. Après, il y a une incertitude, c'est la jeunesse, le manque d'expérience de cette défense. Et puis le manque de banc aussi, hein, parce que là, faut arrêter, il faut qu'il y ait trop de blessures, hein, parce que ça va devenir compliqué. Hein.
Vous aussi, vous êtes...
Je suis plutôt optimiste. Moi, je trouve que c'est. Alors, je suis pas d'accord. Je trouve pas qu'on retrouve le Deschamps de 2018. De 2018. Je trouve qu'on est plutôt un mix entre les deux. Mm-hmm. Je trouve que c'est pas aussi défensif qu'avant. Je trouve que il a relancé les quatre offensifs et pour l'instant, ça tient la route grâce à un Griezmann qui est un peu couteau suisse, qui se sacrifie un petit peu et en même temps, mais il se retrouve dans des situations offensives où il est très, très bon.
Qui est à l'aise dans ce rôle-là parce que c'est ce qu'il fait.
Ouais, mais c'est ce qu'il faisait déjà un peu. Il est capable de le faire. Moi, je trouve que c'est plus offensif qu'avant, qu'il y a plus d'allant offensif, que c'est plus même plus agréable à regarder qu'en 2018, beaucoup plus. Je trouve que les deux premiers matchs de la poule sont beaucoup mieux réussis que les deux matchs de poule de 2018. Et moi, je trouve quand on regarde les autres équipes, parce que là, on est à deux matchs, on voit un petit peu les forces en présence, je trouve qu'ils n'ont pas... Il y a le Brésil qui est un cran au-dessus parce qu'ils sont beaucoup plus complets. Mais les autres, je ne vois pas d'équipe vraiment supérieure à cette équipe de France.
Alors, le dernier match de l'équipe de France dans son groupe, ça sera contre la Tunisie. L'opportunité ou pas des remplaçants, hein, ceux qui ne sont pas toujours présents sur la fiche de départ en tant que titulaire. En tout cas, tous sont prêts. Et c'est ce qu'a dit notamment le milieu de terrain, Jordan Veretout.
Coiffeur, franchement... Je pense que pour gagner une Coupe du Monde, c'est un groupe. On est 24 joueurs aujourd'hui. Tu dois rester concentré et qu'on doit faire appel à toi, être présent. Mais les 24 joueurs ont de grandes qualités et tout le monde peut jouer chaque match. Donc voilà, rester concentré et puis quand on fait appel à nous, être bon sur le terrain.
Il dit le mot coiffeur. On a l'habitude de dire, on est qualifié, on fait jouer les coiffeurs. D'où vient cette expression, Jean-Philippe Bouchard ?
Alors ça a été traité par notre ami Vincent Duluc à plusieurs reprises. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... de source officielle.
Il n'y a pas un homme avec ses ciseaux dans l'ombre.
Oui, non, mais ça date d'avant. Ça date d'avant, évidemment. Alors, il y a parfois, effectivement, dans les sélections, un joueur qui se dévoue pour aller coiffer les autres quand il ne joue pas. Voilà. Mais ça date, c'est une expression qui date d'il y a bien plus longtemps, en fait. C'est un argot de sportif qui date d'il y a bien longtemps. Mm-hmm. Et donc, on ne sait pas exactement sourcer l'origine du terme. En tout cas, il désigne ceux qui ne jouent pas, donc qui ont le temps de se coiffer éventuellement.
Et de se faire beau.
Sur le banc, voilà.
Alors, est-ce que selon vous, Didier Deschamps va faire jouer les remplaçants, leur donner une chance d'au moins toucher la balle et d'être sur un terrain ?
Bah ouais, il aurait tort de ne pas saisir l'occasion, parce qu'on est quand même dans une Coupe du Monde en plein milieu de la saison. Il y a eu beaucoup de fatigue avec les matchs de Ligue des Champions qui sont enchaînés en deux mois.
Des blessures aussi.
Il y a eu pas mal de blessures déjà depuis le début de cette Coupe du Monde et avant pour l'équipe de France. Et je pense qu'il ne peut pas prendre le risque. Il ne va pas tout chambouler, mais je pense qu'il fait au moins 6-7 changements. Il n'y a rien à dire. Et je pense qu'Mbappé débutera parce qu'il a envie de battre des records et qu'il est jeune et qu'il est en pleine possession de ses moyens. Je pense que Griezmann, qui a vécu une saison un peu particulière avec ce contrat où il ne jouait que 30 minutes par match, il est frais aussi. Mais reposer Giroud qui a 36 ans, peut-être préserver le milieu Tchouaméni, Rabiot.
Et Raph Varane aussi.
Ah, Varane, il va jouer. Moi, je pense qu'il va enchaîner. Varane, il a besoin de rythme. Il n'a pas joué depuis un mois.
Il n'a pas joué tout le match.
J'ai pas compris ça dans ses déclarations. Moi, je pense il avait quand même l'air de dire que... Il était content d'être revenu, c'était bien comme ça, qu'il fallait pas en faire trop, qu'il avait pas 90 minutes dans les jambes.
Non, il peut jouer une mi-temps, il peut jouer au moins une mi-temps, voire une heure. Il faut qu'il enchaîne, Varane, hein, parce que pour le 8e, ça va attaquer après sévère, et je pense qu'après, il va jouer tous les matchs.
Après, on peut imaginer l'inverse, on peut imaginer commencer avec le banc. Et faire rentrer à l'heure de jeu les titulaires pour les mettre en rythme pour le match d'après. Ça peut s'envisager aussi. Ouais. Faire rentrer effectivement.
Mais pas Varane, hein. Faire rentrer un défenseur.
C'est compliqué,
en cours de match,
mais là il n'y a pas de risque.
Un peu blessé.
Une question autour des qualifiés Euro. Jusqu'à cette heure, hein, on a 8 groupes. Et alors il reste un groupe à jouer demain, mais on a seulement 3 qualifiés. C'est rare, non, d'avoir dans une Coupe du Monde seulement 3 qualifiés sur 8, oui.
Je sais pas. J'ai pas les.
Sur les
mais je crois il y a une sorte aussi de nivellement vers le haut. Il y a plus de petites équipes.
Il y a beaucoup d'incertitudes.
Vers le haut, toi, tu penserais ?
Oui.
J'irais plutôt vers le bas, moi.
L'un dans l'autre, en tout cas, l'écart s'est resserré.
Je trouve que le niveau général de la Coupe du Monde n'est pas extraordinaire. Il y a quelques équipes qui sont au-dessus, comme le Brésil, Portugal, la France.
L'Espagne aussi, qui joue bien.
L'Espagne qui a joué l'Allemagne, donc c'est un peu trompeur aussi, effectivement. Pour le reste, on a eu pas mal de matchs assez moyens dans le jeu. Il y a beaucoup d'erreurs défensives, de naïveté tactique. C'est enjoué. C'est le Canada, les États-Unis, tout ça. Il y a pas mal de vie, mais tactiquement, c'est quand même très naïf, moi, je trouve, très, très décevant.
Mais il n'y a pas ces scores fleuves qu'on voyait avant, et puis souvent les équipes européennes se détachaient très vite, et puis le reste s'était éliminé après deux journées. Là, déjà sur le continent africain, ils sont toujours en vie, alors qu'en 2018, ils étaient presque tous éliminés à part le Sénégal. Je crois donc que le niveau s'est resserré en tout cas, soit c'est un nivellement vers le bas, soit vers le haut, mais il n'y a plus ces équipes qui prennent des tôles dans les matchs de poule. Mmh.
On continuera à suivre la dernière journée, le dernier groupe du mois. Et on continue avec la journée de demain. Et le Sénégal de retour sur la pelouse pour un troisième match contre l'Équateur, qui est une finale avant l'heure, peut-on dire, puisqu'il faut gagner et rester ou bien... perdre et rentrer à Dakar. Ni les joueurs, ni sans doute les supporters n'ont envie de rentrer au pays. Ils sont d'ailleurs heureux d'être là. Écoutez-les, les Liboughi de Rufisque, ils l'ont expliqué, ce groupe de supporters, à Olivier Pron.
C'est important de venir au Qatar parce qu'actuellement, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai rencontré beaucoup de choses. Ça fait plaisir de venir ici au Qatar. C'est l'essentiel.
Il faut venir supporter les Lions.
C'est un devoir, absolu.
Babacar a 65 ans, à la fois tonton, père et grand-père des Liboughi. Il est le doyen de ce troisième et nouveau groupe de supporters des Lions venus de Rufisque, à 30 km au nord de Dakar. Les Liboughi, le nom des pêcheurs en Wolof, un club de quartier populaire dans tout le pays. Pape Masgay est leur leader.
La SN Liboughi fait du bruit, la SN Liboughi sait faire du spectacle, des prestations extraordinaires. On a l'habitude de chauffer les tribunes. Donc tout le Sénégal savent qui est la SN Liboughi, y compris nos joueurs même. eux aussi, ils ont été pour qu'on soit là.
Et sur injonction du président Macky Sall à son ministre des Sports, les Bougies sont donc ici totalement pris en charge par l'État, comme les plus connus, 12e Game Day et Casa Sport. Pour les concurrencer ?
Moi je dirais pas concurrencer, mais pour compléter, pour accompagner, parce qu'ils sont nos aînés, qu'ils ont été là avant nous, ils ont occupé la place. Maintenant, nous sommes venus pour apporter une touche particulière à ce qu'ils font.
Vous êtes combien ? 30 ?
Ben, nous sommes 30, mais on dirait que nous sommes 1000, parce que nous savons faire du bruit.
Je suis leur maman.
Aïta, maman.
Je suis leur maman. C'est à cause de ça qu'on m'a dit qu'il faut partir avec les enfants pour qu'ils amènent la coupe au Sénégal. C'est ça notre vœu. On va bien dire gigi-djek, pour les yeux faits comme ça. Nous, on se porte avec des tam-tam, des kidou-kou-kou-kou-kou, beaucoup de choses. C'est ça qui motive les joueurs. On fait beaucoup de bruit.
Faire du bruit pour des lions poussés le plus haut possible, coûte que coûte.
À la vie, à la mort, ce sont des inconditionnels. Toujours prêts, toujours au front. Rien ne peut nous ébranler. On ne fera jamais. Sénégal, tout simplement. Rien d'autre. Nous avons comblé l'absence de Sadio Mané par nos champs. C'est ça l'objectif. Ils cherchent que Sadio est avec eux. On sera au second tour. On aura plus loin qu'en 2002.
Objectif donc demi-finale, cela passe d'abord par un succès face à l'Équateur ce mardi. Olivier Pont, Doha, RFI.
Alors, plus loin qu'en 2002, évidemment, il va falloir les encourager. Ils seront là, les Bougies et les autres, demain dans le stade. C'est très important et évidemment essentiel. Les Lions sont prêts et sont confiants. C'est ce qu'a affirmé le sélectionneur. Adieu, si c'est toujours au micro d'Olivier Pont.
Seule la victoire est belle, donc nous nous sommes préparés à ça. Comme je l'ai dit, on a eu aussi dans le passé à jouer des genres de matchs-là. J'espère qu'on aura la même énergie, j'espère qu'on aura la même agressivité, j'espère qu'on aura la même influence qu'on a eue sur ces matchs décisifs, ces finales-là que vous êtes en train de dire. Mais bon, en venant ici, je pense qu'on le savait, si on voulait aller au bout de cette compétition et surtout de cette poule-là, c'est les genres de matchs-là qu'il faut se préparer à jouer. Mon équipe est expérimentée, il y a des jeunes joueurs aussi qui sont là, qui sont à l'habitude aussi de ces genres de défis, ces genres de matchs-là. Nous les préparons bien, nous préparons bien ce match-là, mais et puis nous sommes confiants.
Le sage est posé à Aliou Cissé à la veille d'un match. Yoro Mangara, ce match, c'est vraiment tout ou rien et ça, c'est peut-être difficile.
Difficile, mais on peut le faire. C'est des matchs qu'on peut gagner parce que avant la Coupe du Monde, on avait dit qu'il fallait sortir des phases de poule et après, on prendra match après match. Donc, pour moi, on est déjà sorti des phases de poule. Ça, c'est en 16e de finale qu'il faut gagner pour se qualifier en 8e de finale. On a montré de bonnes choses lors du match face à l'Équateur, mais également
face au Qatar,
même si on a...
Ça sera face à l'Équateur d'ailleurs, hein, demain, le dernier.
Oui, mais ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 2018. En 2018, on a joué une autre équipe sud-américaine, la Colombie, lors du troisième match. Parce que premier match, on bat la Pologne, on fait match nul face au Japon, on avait 4 points. Mais au coup de sifflet... Pour démarrer la rencontre, on était qualifié. Alors que là, au coup de sifflet, on est éliminé. Donc, ça change. On est obligé d'aller chercher la victoire. Alors que je pense qu'en 2018, on était attentif et on voulait préserver ce résultat. Ce ne sera pas le cas demain. Au coup de sifflet, il faudra tout lâcher, tout donner. Et il faudra inscrire un but sur coup de pied arrêté, n'importe lequel. L'essentiel, c'est d'arriver en huitième de finale.
On a eu l'impression, effectivement, vous parliez, Jean-Philippe, de ces équipes qui, finalement, eh bien, évidemment, au deuxième match, elles se trouvent mieux, elles se cherchent mieux. Et bon, l'adversaire, l'adversité était quand même moindre face au Qatar que face aux Pays-Bas. Mais là, face à l'Équateur, on a vu une équipe d'Équateur plutôt intéressante. Malheureusement, Valencia, il était sorti sur blessure et je pense qu'il reste incertain pour ce troisième match. Est-ce que vous pensez qu'il y a avantage au Lyon ?
Oui, je pense qu'ils ont plus de talent individuel. L'Équateur est solide, hein, bien organisé, on l'a vu. Voilà. Le match d'ouverture contre le Qatar était très faible. C'est un des plus mauvais match d'ouverture de Coupe du Monde que j'ai vu et je commence à avoir des cheveux gris. Donc ils n'ont pas été soumis à
beaucoup de pression. Oui.
J'ai l'impression que le Sénégal est quand même au-dessus, a plus de joueurs individuellement qui sont capables de faire la différence. Et puis ça va jouer à l'envie aussi. Je pense que là, pour moi, c'est un peu l'année du Sénégal. Hein. Enfin, franchement, ils ont des grands joueurs, des bons joueurs. Ils ont une ambition qui affirmait depuis un moment. Donc,
on a vu aussi leur caractère, voilà, hein, revenir au score, voilà, c'est ça, c'est... tenir le score, gagner.
Ils sont concentrés, il y a peu de problèmes ouvertement dans l'équipe. Enfin, voilà, on n'a pas
De feuilleton.
On n'a pas de onana. On a...
Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont dans, la compétition et sur le simple niveau, je pense qu'ils sont meilleurs.
Un petit mot, Bruno ?
Je suis moins optimiste parce que l'Équateur n'a besoin que d'un nul. Et l'Équateur, je les ai trouvés plutôt bons face aux Pays-Bas. Après, ça va dépendre tellement de la santé de Valencia, s'il peut tenir sa place ou pas. Mm. Parce que c'est le joueur clé de cette équipe.
Lui aussi, c'est un ancien, hein, n'est-ce pas ? Ouais, mais c'est vrai que c'est lui qui donne le tempo. Ouais. Ça sera à 15h en temps universel, vous le savez, un troisième match. Donc, on joue en même temps.
Et je serai là.
Et vous serez là pour assurer notamment le commentaire en direct avec Sofiane Amazian. Et il y aura en même temps...
Et sans parti pris.
Oui, j'essaierai.
Il essaye, mais quand il perd, il se tait. J'ai remarqué. Il y aura en même temps donc Pays-Bas-Qatar. Et ça sera ça pour le groupe A. Dans le groupe B, alors là, on passe à 19h en temps universel, 20h heure de Paillerie. Pays de Galles, Angleterre. Alors là, on s'affronte entre frères britanniques. Ouais. Et puis, il y aura un Iran, États-Unis, sur lequel on va s'arrêter. Le jeune Timothy Weah a marqué pour les États-Unis lors du premier match de cette équipe américaine. Et les voilà, les Américains, face à un drôle de rendez-vous qui va au-delà du sport, une affiche face à l'Iran, dans un groupe où tout est encore possible. Mais revenons sur cette opposition. Il y a déjà eu un match historique, n'est-ce pas, messieurs ? C'était en 1998, Jean-Philippe Bouchard, en France, un Iran-États-Unis.
Dans un autre contexte politique, beaucoup plus tendu entre les deux pays.
Entre les deux pays, avec peu de temps après la révolution.
Maintenant, les circonstances politiques aujourd'hui, elles concernent beaucoup plus l'Iran, évidemment, que la politique intérieure de l'Iran et la révolution qui se passe en ce moment. L'actualité, elle est là. Il n'y a plus de conflits ouverts avec les États-Unis. On n'est plus là-dedans. Donc, le match ne prend pas de sens par rapport à ça.
Oui, parce que là, en 98, 18 ans, en gros, avait passé. Là, ce n'était plus le cas. On n'est plus dans ce contexte-là, mais il y en a un autre.
Maintenant, on ne sait pas bien cette équipe d'Iran, si elle est... soutien du régime, neutre, opposé au régime.
Pour le premier match, ils n'ont pas chanté l'hymne.
Ils n'ont pas chanté l'hymne.
C'est pas super clair. Alors,
au deuxième,
ils n'ont pas chanté l'hymne sur le premier match, donc ça vaut quand même dire qu'ils soutiennent.
Ils l'ont chanté.
En tout état de cause, l'Iran est un pays fondu de football. Ils adorent le foot. Et là, en plus, il s'est trouvé que la victoire de l'Iran a permis la libération de 700 prisonniers politiques. Peut-être qu'il faut souhaiter la victoire de l'Iran pour faire bouger les choses, en fait, paradoxalement. D'autant que les États-Unis, ça fait 24 ans qu'ils se sont lancés dans le football et ils n'y arrivent pas quand même. Ils n'ont pas réussi à s'emparer. Ils vont organiser la prochaine Coupe du Monde, mais leur niveau n'aura pas vraiment progressé en 28 ans, entre les deux Coupes du Monde.
C'est vrai. En tout cas, les manifestations qui ont lieu actuellement en Iran, sporadiques, on le sait plus ou moins, et il y a eu déjà beaucoup de répression, c'est à cause de la mort, septembre, de Mahsa Amini. Les Américains sont solidaires de ce combat. En tout cas, ils l'ont confié notamment à un certain Walker Zimmerman, membre de cette équipe américaine, qui joue où, Walker Zimmerman? Alors, je crois qu'il y a quelqu'un là qui sourit autour de la table, Bruno Constant.
J'ai cru comprendre qu'il joue à Nashville, c'est ça?
Effectivement, un joueur de l'équipe de Nashville. Écoutons-le.
Écoutez, vous savez, nous ne pouvons pas vraiment parler à la place des Iraniens. Nous savons qu'ils sont sous tension avec ce qu'ils traversent. Ils sont humains et nous comprenons ce plein d'émotions. Nous compatissons complètement. Nous sommes à 100% derrière eux. Et nous soutenons évidemment le droit des femmes. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés, de déchirements. C'est évidemment une période très perturbante pour eux. Nous faisons preuve d'empathie à leur égard. Même si, bien sûr, nous restons avant tout très concentrés sur la rencontre. rencontre de ce mardi, mais tout en soutenant pleinement leur combat.
Effectivement, en écoutant Walker Zimmermann, on se dit que les temps ont changé, qu'on c'est bien différent de 1998. À l'époque, l'Iran l'avait emporté sur le score de 2-1. Est-ce que vous pensez que ça lui donne un supplément d'âme à cette équipe d'Iran et qu'elle pourrait l'emporter demain, Bruno Constant? Plus pour son peuple que pour une autre question politique.
Ouais, autant sur le premier match, ils ont quand même pas mal déjoué. Effectivement, cette histoire d'hymne où ils n'ont pas chanté, il y avait, j'imagine, de l'émotion chez les joueurs. Ça les a fait un peu déjouer. Autant sur le deuxième match, ils ont été très très bons et ils ont été portés par quelque chose qu'on ne mesure pas encore totalement. Après, la confrontation avec les États-Unis, moi je trouve que ça s'est quand même un peu ravivé sur les derniers jours, parce qu'il y a cette histoire de compte Twitter de la Fédération américaine qui a posté, qui a annoncé le match face à l'Iran. Et sur le petit drapeau qui accompagnait le nom de l'Iran, il n'y avait pas le symbole de la République islamiste. Et ça a eu une réponse terrible du gouvernement iranien, et enfin du groupe politique en place et même de la fédération iranienne, en disant que c'était indigne et qu'ils demandaient ce que l'équipe américaine soit suspendue pour 10 matchs. Donc ça va arriver de la tension peut-être pas entre les deux équipes,
voilà, mais entre les joueurs.
Mais entre les deux camps, malgré tout, on va regarder ça un peu différemment. Mais forcément, ça va être regardé. J'avais un collègue américain qui me disait qu'effectivement, aux États-Unis, on était un peu passé à autre chose. Ça date de plus de 20 ans maintenant, le conflit, et voilà, et chacun a fait son histoire de son côté. Mais après, on revient sur les États-Unis, c'est un peu particulier les États-Unis, parce que ce n'était pas vraiment l'objectif, cette Coupe du Monde pour eux. C'est un groupe qui est extrêmement jeune, qui est construit pour la prochaine Coupe du Monde en 2026,
qui se passera
en partie aux États-Unis. Et quelque part, ils sont presque en avance sur leur programme, parce que moi, je les ai trouvés plutôt assez séduisants. Par moment, pas sur un match de 90 minutes, mais par moment, ils ont été intéressants notamment lors du premier match face au Pays de Galles. Et puis, quand ils ont une tête quand même à l'Angleterre. C'est pas rien d'accrocher un match nul face à l'Angleterre. Donc, cette équipe américaine, et tout est jouable encore sur cette dernière journée, même si les Anglais, a priori, il faudrait vraiment un cataclysme pour qu'ils ne soient pas qualifiés en huitième de finale.
Euro.
Cette équipe d'Iran, je ne sais pas, mais elle aurait un malin plaisir à battre cette équipe américaine, ça c'est clair, parce que c'est
en plus, il y a des supporters qui ne sont pas très loin, hein, parce que le golfe Persique, là, on est dedans et ils peuvent venir en nombre.
C'est de la géopolitique. Après,
géographie c'est... surtout, là.
Sur ce que vous venez de dire, oui.
Non, mais c'est vrai, l'autre équipe du coin qui brille, c'est l'Arabie Saoudite. C'est juste en face.
Il y a quelque chose. On le sent d'ailleurs dans le stade, hein, dans les stades, les équipes plus encouragées que d'autres.
Et puis, ils ont quand même deux très bons joueurs devant. Sadar Azmoun est l'un d'entre eux. Je l'ai vu ici il n'y a pas longtemps à Orléans lors d'un match amical face au Sénégal. Il rentre et égalise. C'était encore un match amical, hein, parce que justement, il faisait partie des joueurs qui avaient boudé pour soutenir la répression ou les manifestants en Iran. C'est un joueur extraordinaire qui a failli signer à Lyon il y a un an et demi avant de signer en Allemagne. J'aimerais bien que cette équipe se qualifie pour justement qu'il y ait beaucoup plus de liberté dans ce pays.
Ce sera un beau symbole. Oui,
que ça passera forcément par là.
En tout cas, par rapport au peuple iranien, c'est sûr qu'il faut une victoire. Quel que soit le sens de cette victoire, ça apportera les gens, ça justifiera que les gens aillent dans la rue, ça justifiera des tas de choses. Et c'est sûr que quelqu'un a dit qu'il ne fallait pas faire de politique dans le foot, mais le foot est complètement politique et on le voit bien.
Oui, et puis ça apportera sûrement de la joie et des pensées autres pour cette population qui en ce moment a bien, bien du mal. Mais c'est vrai que ça peut donner peut-être un supplément d'âme aussi, Jean-Philippe.
Bah oui, après c'est du football, hein, donc voilà, c'est on peut.
Non, mais on avait senti ça un peu aussi avec les Ukrainiens, qui avaient été portés par ce qui se passait dans leur pays. C'était aussi grave.
Lorsqu'ils avaient joué contre l'Écosse en barrage, effectivement, on avait beaucoup.
Mais c'est difficile à mesurer parce qu'on ne sait pas comment ils le vivent, on ne sait pas si ça les touche, on ne sait pas si ça les porte ou si ça les.
C'est les inhibe.
On
peut parler de toutes les interférences extérieures, mais après ça reste comme un groupe qui est assez fermé, qui est protégé, et ça dépend aussi beaucoup de sa relation avec le sélectionneur, le staff. C'est là que ça se joue souvent, hein, parce qu'après les interférences, pourquoi on joue, pour qui on gagne, ça devient quand même compliqué. Hein.
Bah, en tout cas, ils joueront peut-être pour un grand moment du côté de leur pays. Et dans cette Coupe du Monde qui commence donc demain la troisième journée avec le groupe A qui revient et le fameux Sénégal. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui dans la première et dans la deuxième édition. Merci messieurs. Et à demain donc, Yoro Mangara sur les antennes
de RFI. Je serai là et on va se qualifier.
Notre monsieur Sénégal. Bonne nuit à tous et à demain.